This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'épisode 101 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Je suis Charlotte Blum d'OCS et je suis merveilleusement entourée. À côté de moi, Émilie Semiramod de Glamour. Salut Émilie.
Salut.
Pierre Langlais de Télérama. Salut Pierre.
Hello, hello.
Et Benoît Lagane de France Inter et Télématin. Salut Benoît.
Salut Charlotte, salut à tous.
Pendant les 30 minutes qui viennent, nous allons parler d'un réalisateur français aussi discret qu'important dans le paysage sériel français, mais pas que.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait.
What?
That's the last one.
Cet homme, c'est Jean-Xavier Delestrade, celui qui a cassé les codes du true crime avec sa série documentaire culte The Staircase en 2003, ouvrant la porte à tous ces récits macabres qu'on binge comme des voraces, j'ai nommé Making a Murderer, The Keepers ou encore The Jinx. Depuis, le réalisateur continue de raconter des histoires judiciaires et sociales en série mais par la fiction. Citons la sublime Trois fois Manon ou la toute dernière Jeu d'influence diffusée sur Arte.
Je vais déposer un amendement. Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques.
J'ai pas envie de passer pour le ministre qui défend les pesticides. Tu comprends ça?
Vous savez garder un secret. Ce sont des missions de lobbying que je voudrais vous confier.
Claire Ancel, qui a vendu son âme au diable.
Ouais, mais elle a vendu cher. Très cher. J'ai peur qu'il cherche à m'éliminer. Il y a déjà eu un meurtre.
Pourquoi tu fais tout ça?
De quel côté?
C'était donc un extrait de Jeu d'influence, mini-série glaciale et fascinante qui nous plonge au cœur des lobbies autour de l'agrochimie, du pur de l'estrade si j'ose dire. Est-ce que c'est un réalisateur dont vous suivez le travail, les amis?
Bah oui, sinon on serait pas là, enfin j'espère en tout cas. C'est vrai, d'abord comme pur réalisateur de documentaires et puis comme réalisateur et scénariste, je me permettrais de dire, parce qu'il est aussi co-scénariste de la plupart de ses œuvres, souvent co-scénariste, évidemment c'est là que je me ridiculise en oubliant le nom de son partenaire de crime qui est toujours avec lui, mais ça me reviendra d'ici là. Qui a fait une évolution, mais c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui est à la fois purement dans le docu, donc qui est vraiment quelqu'un qui sait suivre la réalité, mais la raconter, donc c'est déjà une forme d'écriture, mais qui, dans ses fictions, n'est pas toujours un pur documentariste. C'est-à-dire que Trois fois Manon, évidemment, est basé sur de l'histoire, sur du document, sur des choses réelles, bien concrètes, mais c'est quand même un drame humain avant tout. C'est-à-dire que c'est ça, moi, qui m'intéresse chez lui, et c'est pour ça que je le suis, c'est quand il fait un documentaire, il cherche l'humain, et quand il fait de la fiction, il fait pas du documentaire, il continue de chercher l'humain, mais via d'autres moyens.
Oui, bah moi c'est un petit peu pareil, c'est vraiment la trajectoire docu à fiction qui m'intéresse, et à chaque fois aussi le petit jeu de savoir où est-ce qu'il va piocher ses références, et là c'est un peu plus facile, on va dire, dans jeu d'influence où il a vraiment repris des éléments qui ont marqué l'actualité et qui sont des préoccupations très actuelles pour alimenter sa fiction. Et ce qui est marrant aussi, c'est la rupture des codes, en tout cas, entre le documentaire et la fiction, et comment il s'attache à représenter ces personnages avec quelque chose de très intime, quoi, qui fait vraiment sa marque de fabrique.
Juste pour redonner le nom de son acolyte, c'est Antoine Lacomblaise, voilà.
Mais il a triché, hein, je tiens à le dire.
Bah, bien sûr, j'ai triché.
ce qui est intéressant avec Jean-Xavier de Lestrade, c'est son parcours. C'est-à-dire qu'il commence comme journaliste dans des magazines d'actualité, je crois sur la 5, au moment de l'époque de la 5, des émissions reporters, notamment de Carolis. Je crois bien que c'est ça. Hein. Au départ, il commence comme ça. Ensuite, il fait les documentaires et il passe à la fiction. Et au début, il passe par des documentaires vraiment centrés sur tout ce qui concerne le droit et la justice. Il a fait des études de droit, il a eu des professeurs de droit importants, dont certains qui ont été ensuite dans des affaires dont il a fait des fictions. Donc il a été nourri par tout ça, et quand il bascule à la fiction. Donc au départ, c'est par ce qu'il connaît, c'est-à-dire le judiciaire. Et moi, ce qui me plaît, c'est au moment où il va plus loin, où il quitte finalement le judiciaire. Le judiciaire est toujours très présent. Et là, typiquement, dans la série Jeux d'influence, on sent bien qu'il y a la dimension du droit, de tout ce qu'il faut connaître par rapport à la légalité du sujet et du sujet. Mais il sort vite de ça pour, effectivement, comme vous disiez, aller sur de l'humain et des humains dans d'autres sphères. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant et qu'on trouve sa patte de documentariste dans sa fiction aussi.
Et d'ailleurs, ce qui fait qu'il va se faire connaître, j'allais dire du grand public, mais bon, un Oscar du meilleur documentaire, c'est pas forcément le truc qui fait de vous une méga star internationale, mais ça compte quand même. C'est 2002, Un coupable idéal, qui est déjà, évidemment quelque chose sur l'Amérique et les dysfonctionnements de la justice et du droit américain, mais c'est avant tout, comme son titre l'indique, un portrait d'un jeune homme, enfin d'un être humain, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, encore une fois.
Mais ça, ce qui est très intéressant par rapport aussi à ce documentaire, c'est que non seulement ça le met en France, ça va le positionner tout de suite très haut, à tel point que quand ce documentaire même arrive et oscarise, on se dit mais c'est un Français qui a fait ça, parce que c'est fait vraiment comme les Américains auraient pu le faire. Comme les documentaires du cinéma indépendant, quoi.
Et c'est ça qui est troublant aussi. Excuse-moi, je t'interromps, mais ce qui est troublant aussi, c'est que sa légitimité, en fait, il la gagne aux États-Unis et on le considère en France après qu'il ait fait des documentaires qui ont eu cette reconnaissance-là, Un coupable idéal et puis De Serkis, dont on parlera plus tard. Oui. C'est assez curieux aussi, cette trajectoire, elle est assez intéressante aussi, je trouve.
Oui. Bah justement, dans la façon dont il garde cette humanité, la façon dont il traite les personnages tout en les mêlant à des thématiques sociales, qu'est-ce que vous avez pensé de Jeux d'influence ? Est-ce que déjà ça ressemble à du de l'Estrade pour vous ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti face à elle ?
C'est du de l'Estrade, il n'y a pas de doute. Alors après, moi, le de l'Estrade que j'aimais, c'était celui de Trois fois Manon et de Manon 20 ans, qui était plus naturaliste encore, qui était vraiment presque, enfin, qui était collé à son personnage, qui était dans l'émotion pure, mais qui pourtant disait beaucoup de choses sur l'état de la jeunesse aujourd'hui.
C'est parce que là, il y a plus de personnages.
Personnages, c'est plus choral, et puis c'est plus méticuleux, si j'ose dire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un problème. Les premiers épisodes, j'ai eu du mal à accrocher, parce que ça, faut bien nous expliquer où est le problème. Les pesticides, la loi qui bloc, les politiques, les lobbyistes, etc. Et c'est peut-être plus difficile pour lui de faire quelque chose qui soit moins pédagogique, si j'ose dire. Et du coup, c'est une série qui est un peu pédagogique. Puis, qui se détache de ça et qui devient un pur thriller. Et là, pour moi, ça marche beaucoup mieux.
Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez haletant dès le départ. Je trouve que la mise en place des personnages, tout en étant dans la pédagogie et dans la compréhension de tous ces personnages, il y a un suspense immédiat où on a envie de on voit bien qui sont en jeu, mais il y a par exemple le personnage interprété par Alix Poisson. Au départ,
une ancienne journaliste virée il y a peu
et au début, quand on la voit arriver, moi je suis persuadé qu'elle va être dans un certain camp. Et assez vite, au bout du premier épisode, on comprend qu'en fait, elle n'est pas forcément là où on l'attend. Et ça, je trouve que c'est tout ce questionnement par rapport à ces personnages. Il arrive quand même à le faire immédiatement. Et moi, il y a des moments quand même, le personnage de ce père qui travaille dans l'industrie agrochimique, la façon dont il est filmé, la façon dont il est posé dès le départ, est extrêmement émouvant. Et moi, il m'a tout de suite chopé, dans son rapport notamment avec sa fille, par exemple.
Moi, j'ai une petite réserve sur le traitement que j'ai trouvé un peu froid au départ. Et j'ai eu du mal à m'accrocher, c'est ce que tu disais aussi, Pierre. Et du coup, moi, ce qui m'a sauvée, en tout cas dans la série, c'est le personnage d'Alix Poisson, qui est vraiment le seul personnage qu'on trouve dans les zones de gris et qui est ni, entre guillemets, dans le côté manichéen du bien et du mal, qui pour moi,
parce qu'on peut penser qu'elle va être que bien, hein, au départ.
Oui, parce qu'il y a quand même. Mais là, je suis d'accord avec Émilie. Il y a un petit côté les méchants entre guillemets de l'histoire. Alors après, j'en parlais avec une collègue.
Et les gentils aussi. Les méchants sont très méchants. Les gentils, on peut pas rentrer
dans le détail, mais sur la toute fin, les gentils quand même font preuve d'un peu moins de manichéisme. Mais en tout cas, les méchants sont super méchants. Alors dans James Bond, ils seraient pires que les méchants de James Bond.
Et en politique aussi.
Voilà. Et j'ai parlé avec une collègue qui connaît un peu ce monde-là, qui m'a dit mais détrompe-toi, il y a des mecs dans les lobbies qui seraient effectivement des assassins, quoi. Des gens qui seraient prêts à nettoyer tout ce qui peut les empêcher d'arriver au pouvoir. Alors,
Bah pour le coup, moi, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de pédagogie par rapport à ce monde des lobbyistes, qui est très rarement représenté dans les fictions françaises, en tout cas. Mmh. Et voilà, peut-être que j'aurais eu besoin d'un peu plus de qu'on me donne un peu plus des clés sur les codes de ce monde-là.
Et du coup, je me permets peut-être pitcher pour ceux qui n'auraient pas vu la série un peu plus rapidement. On parle de lobbyistes depuis tout à l'heure, etc. Mais donc, pour dire que le personnage de Poisson va se retrouver à travailler avec des lobbies des produits
agrochimiques,
donc toxiques, dont on parle énormément aujourd'hui.
Les pesticides.
Les pesticides, voilà. Et la tension centrale est, autour de, d'un possible futur produit qui est en train d'être validé, qui pourrait donc se retrouver sur le marché, mais qui serait
plus bio.
Voilà, qui serait bien meilleur, mais on comprend qu'il y a quelque chose qui se cache.
Greenwashing.
Quelque chose qui se cache derrière, qui est peut-être non seulement très dangereux pour les gens qui l'utiliseront, puisqu'en fond, on comprend qu'il y a un agriculteur qui a lui contracté un cancer suite à l'utilisation de certains de ses produits, et qui pourrait en plus être en train d'être validé suite à des pratiques purement criminelles, là, pour le coup. Donc voilà un peu la double tension, à la fois politique et écologique, et de pur thriller de cette histoire-là.
Mais il y a ce personnage justement d'agriculteur qui peut être ta Manon un peu, qui est le personnage purement humain, qui est le personnage dans la douleur, qui est aussi, j'ai l'impression, un peu la voix de Lestrade, qui est celui qui va aller essayer de se battre.
Il a fallu qu'il en mette plus de ce type-là, on le voit pas assez, ça c'est une autre frustration.
Moi je trouve que ça c'est une des qualités de Lestrade, d'équilibrer, de pas être dans le pathos.
Ouais. Ça on est d'accord là-dessus, de pas faire dans le pathos, justement. Mais justement, on le voit, cet agriculteur, que dans la lutte contre le cancer, et finalement pas assez dans la gestion quotidienne de la ferme.
Oui, mais c'est aussi important de le montrer, en fait, qu'il galère, parce que ce que montre bien Lestrade, c'est que, en fait, c'est l'impuissance de ces gens-là, parce que lui,
oui,
il n'est, attention, je mets 32 guillemets, que agriculteur, et en fait il se fait broyer, en tout cas il a peur, et on a peur pour lui que le système puisse le broyer.
Mais il est le gamin d'un coupable idéal en 2002, il est toutes les voix invisibles, toutes les voix qu'on n'entend pas, auxquelles de Lestrade donne la parole, en fait.
Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est une série qui est un peu différente parce qu'elle se passe dans les hautes sphères, si j'ose dire. Et donc évidemment, dès que vous parlez de politique, de lobby et tout, vous pouvez pas jouer l'innocence, ou en tout cas pas longtemps. Et effectivement, il a besoin de ces personnages-là qui sont plus proches de nous, qui sont plus proches d'une forme de candeur et qui du coup nous aident aussi. Et c'est aussi grâce à eux qu'on est pris par la main. Et le personnage d'Alix Poisson, en quelque sorte, est aussi un peu ce personnage-là, sauf qu'elle a un passif qu'on va comprendre au fur et à mesure, et qui fait qu'elle n'est pas complètement toute blanche et complètement candide dans cette histoire.
À la limite, j'aurais préféré qu'on passe un petit peu plus de temps, moins de temps, pardon, justement, dans les coulisses du pouvoir, et qu'on zappe un peu cette partie-là et ces personnages-là, et qu'on se concentre vraiment entre l'agriculteur et les lobbyistes. Je trouve que c'est vraiment, moi, c'est ces personnages qui m'accrochent le plus.
Mais justement, par rapport à ces thématiques-là, tu disais tout à l'heure, Émilie, que ça manquait peut-être un peu de pédagogie, parce que, effectivement, les lobbies,
oui,
c'est pas un sujet qu'on traite beaucoup.
Pourtant...
Mais de Lestrade, de son côté, il dit, c'est juste. Justement parce qu'on ne traite pas de ces sujets-là que je choisis de raconter une histoire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est à la télé qu'on raconte ces histoires-là, sans vouloir rejouer à la bataille cinéma et série, mais en tout cas qu'il y a certaines thématiques qu'on ne voit plus ou qu'on ne verra plus au cinéma?
Oui, alors ça dépend, parce que là, toute l'ampleur, justement, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être en série, c'est d'avoir les lobbies, les agriculteurs et les politiques, justement parce qu'il y a le temps de la série. Alors qu'au cinéma, on aurait pu voir effectivement plus un film centré sur un agriculteur face à un lobby. Et on aurait pu s'arrêter là. Là, au moins, il y a tous les embranchements. Est-ce que c'est la télévision qui, aujourd'hui, fait ces choses-là? Je pense que les Anglais nous ont montré que, bien évidemment, c'était là que ça se faisait. Moi, de Lestrade, plus il avance, plus il me fait penser à Peter Kosminski, par exemple. Qui arrive en quatre épisodes à raconter comment Tony Blair a renversé le Labour dans les années 90 et en a fait un parti de la social-démocratie alors que c'était un parti ouvrier. Comment il arrive à montrer ça? Et moi, je vois ça chez de Lestrade. Et il n'y a que la télévision qui le peut, et il n'y a que les documentaristes, finalement, qui sont aussi issus de la télévision, qui peuvent le raconter. Parce qu'ils connaissent l'écriture documentaire, ils connaissent l'écriture journalistique et télévisuelle. Et finalement, quand on sort, quand on est le téléspectateur d'Arte, et qu'on vient de regarder 28 minutes, et que juste après, on regarde la série de Lestrade, on la comprend encore mieux. On entre encore mieux dans la logique. C'est-à-dire qu'on est habitué, grâce à la télévision, on est habitué à avoir des experts qui nous viennent nous expliquer en plateau comment ça marche. Et tout d'un coup, on enlève les experts de la table et on met l'histoire et on met les personnages. Et c'est ça la force de la télévision et des documentaristes.
Alors, ceci étant dit, le cinéma fait quand même continue à faire des... Il y a des films sur ces univers-là. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui est sur les lobbies, j'entends. Il y a State of Play, mais qui est tiré d'une série. Oui. Donc ça, c'est intéressant.
Il y avait Thank You for Smoking aussi.
Voilà, évidemment, Révélation de Michael Mann. Et aussi, Van Sant a fait un peu plus récemment un film qui s'appelle Promised Land, qui était aussi sur...
Le gaz de schiste, je crois.
Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, dans un milieu qui pouvait être comparable, parce qu'il y avait des agriculteurs, etc. Ceci étant dit, je pense pas que ça soit une question politique. Je pense que le cinéma est libre et on voit le palmarès du dernier Festival de Cannes, pas forcément sur ces sujets-là, mais qui est clairement orienté vers des sujets politiques. La télévision, a priori, serait peut-être même moins bien lotie, parce qu'il y a des tensions politiques. Voilà, sur une chaîne publique, est-ce qu'il faut montrer que le pouvoir peut être corrompu, etc. En l'occurrence, Arte, je pense, a les mains suffisamment libres pour faire ce genre d'histoire-là. Après, ceci étant dit, pour un sujet aussi complexe que les lobbies, etc., oui, c'est clairement la télévision qui est la mieux placée pour pouvoir développer un petit peu l'histoire. Et donc, il faut espérer qu'il y en ait plus des séries comme ça, avec toujours cet écueil, et je pense que Jean-Xavier de Lestrade le dépasse à force d'épisodes, mais peine à le dépasser au début, qui est l'écueil de la pédagogie, qui est aujourd'hui encore à la télé française, où on considère que le téléspectateur a besoin qu'il soit extrêmement pris par la main. Il y a des séries britanniques notamment qui ne prennent pas tous ces soins et qui, par l'intelligence de l'écriture, des personnages, etc., progressivement nous amènent à comprendre des sujets graves sans avoir, dès le début, à dire « Alors, qu'est-ce qu'un lobby ?» Eh bien, mon cher, un lobby, c'est... Enfin, j'exagère.
Non, mais c'est oui, parce que c'est pas comme ça, quand même.
Non,
parce que,
j'exagère. Mais tu vois l'idée. Au début, il y a des dialogues qui m'ont semblé trop écrits dans le côté un peu explicatif. Voilà.
Tu ne dis rien, maintenant ?
Tu cherches quoi, là ? Tu vas me faire chialer, c'est ça ? Mais moi, je chiale pas, moi. J'en ai rien à foutre de tes conneries, là. J'y crois pas. Nanana, je suis malheureux, elle manque trop. Mais c'est du baratin, l'amour, ça existe pas. T'es qu'une chialeuse, une petite victime.
Putain !
C'est ça.
Écoute ce qu'elle te dit, écoute. Est-ce que c'est la vérité, ça ?
T'es quoi, je vais te dire, la victime, c'est toi. Parce que tu dis que l'amour, ça existe pas ? Mais c'est juste que t'en as jamais eu, l'amour. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. T'as trop pas de chance. C'est peut-être ça, ton problème.
Alors c'était un extrait de Trois fois Manon. Pourquoi j'ai choisi celui-là ? C'est parce que bah il y a Alix Poisson qui était déjà dans cette série-là, dans cet extrait. Il y a aussi Alba Gaïa Belloughi qui a été une découverte incroyable, notamment pour nous, journalistes de la CS. Et là, on sent quand même chez De Lestrade une grande qualité de direction d'acteur. Alors que pendant des années, en faisant du documentaire, c'était un peu le fantôme. C'était celui qui devait surtout pas parler aux personnages et les laisser trouver leur voix tout seul, qui devait disparaître. Comment est-ce que vous imaginez ce travail-là avec les comédiens, d'un mec qui a l'habitude d'essayer, à part poser des questions, qui en tout cas ne dirige pas, ne doit pas diriger l'histoire.
Alors ceci étant dit, pour Soupçon, donc The Staircase, le truc a évolué, il s'est rapproché de son personnage principal. Évidemment, il ne l'a jamais dirigé, mais il y avait quelque chose d'une complicité, en tout cas.
Ça n'a absolument rien à voir. Tu peux être complice avec un comédien, mais ça ne veut pas dire le diriger.
Mais je pense que ça compte pour lui. Et pour être allé sur le tournage de Manon 20 ans, qui était la suite de Trois fois Manon, il dit lui-même, et ses comédiens le ressentent, qu'il s'imprime de d'eux-mêmes, des comédiennes et des comédiens. Et donc, je pense que dans sa direction d'acteur, il y a quelque chose qui tient du documentaire, c'est-à-dire qu'il absorbe l'identité et la personnalité des gens. Et c'est peut-être pour ça qu'il a retravaillé avec Alix Poisson, parce qu'il la connaissait déjà. Et il y a cette capacité qui est vraiment celle d'un metteur en scène, mais qui va faire glisser sur l'écriture, qui est de regarder la personne. Et il suffit de rencontrer Alba Gaïa Belloughi pour sentir que Manon, c'est en partie elle. Alors, c'est une banalité, hein, mais qu'il le fait encore plus fortement. Et c'est peut-être ça qui vient du documentaire, c'est que il a une capacité d'observation. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'assez discret dans la vie qui
pour pas dire timide.
Voilà. Qui, du coup, je pense, regarde beaucoup ce qui se passe autour de lui. Qualité nécessaire pour un documentariste, mais qui le fait glisser aussi sur sa direction d'acteur.
Bah, ça sent, parce que tu vois comment il colle la caméra au visage de ses protagonistes. C'est hyper beau, c'est hyper touchant, cette manière d'être tout près en étant comme un fantôme, sans être là. C'est pas intrusif, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime, hein. C'est ce qu'on dit depuis le début. Et moi, les moments que je préfère, en fait, c'est les moments où il filme ses personnages, au moment où il ne parle pas. C'est-à-dire que tu vois vraiment un espèce de masque, souvent de terreur, d'angoisse terrible qui étreint les personnages surtout là dans cette série-là, dans le jeu d'influence, qui parle encore plus que, qui fait encore plus parler les personnages que les dialogues eux-mêmes. Et ça, je trouve qu'il est super bon pour choper ce truc-là, quoi.
Mais c'est un grand défenseur du silence, hein, oui. De l'estrade.
Oui, parce que moi, j'aurais tendance à renverser les choses. C'est justement parce qu'il s'est observé et qu'il a vu comment réagissaient de façon naturelle, dans le réel, les personnages qui avaient tout de personnages de fiction dans le documentaire, qu'il est apte aussi à diriger et à mettre ses comédiens dans des situations avec des dialogues, vu qu'il est aussi derrière, qui sonneront plutôt juste, parce que souvent on a tendance à oublier que certains comédiens sont pas forcément mauvais, c'est qu'ils ont des mauvais dialogues à jouer, et que donc ça les aide pas. Là, ils sont au moins à peu près, c'est à peu près bien écrit, donc tout ça va bien pour eux, et ensuite il sait dégager ça. Mais comme Ken Loach a su le faire aussi venant de l'école documentaire, enfin comme David Simon, enfin comme tous ces gens qui réussissent à passer du documentaire à la fiction. Après, effectivement, il y a les gueules, et donc il y a le choix de casting. Et moi, par exemple, je trouvais que c'était un choix brillant de choisir Jean-François Civadier pour jouer le rôle du lobbyiste, un type de théâtre qui en impose, qu'on avait vu dans Les Revenants, et je trouve que son visage, juste son visage, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, il suffit juste qu'il prenne, je ne sais pas quoi, dans ses cacahuètes là, qui grignotent, ou je ne sais pas ce qui grignote, mais juste quand il craque, ces petites choses sous la dent,
ça que c'est quelqu'un qui meurt, quoi.
Ouais, ouais. Et son visage reste impassible. Enfin, oui, c'est assez.
Moi, ça m'a gêné, ça, justement. Mmh. Moi, je l'ai trouvé too much. Moi, vraiment, c'est un des trucs qui m'a vraiment gêné, c'est-à-dire que les méchants, j'ai besoin qu'ils n'aient pas conscience. N'importe quel acteur, je dirais, vous jouez un méchant et tout, il vous répondra réponse banale. Ouais, mais il sait pas qu'il est méchant.
Et, oui, c'est ça, justement. Et là,
moi, je trouve qu'il joue le méchant.
Il est impassible.
Bah, oui, mais non, justement, quand même, non. C'est son boulot d'être méchant.
Il fait super le méchant qui est conscient d'être méchant, et ça m'a un peu embêté. Et du coup, là-dessus, je suis pas convaincu. Encore poisson, ah, oui. Encore les gentils entre guillemets dans l'histoire, oui. Mais les méchants, ils font vraiment trop. Ils font trop polar. Ça, pour moi, c'est la limite de cette mini-série-là.
Alors, on parle beaucoup de la distance, de la discrétion que peut avoir de l'estrade, mais pour l'avoir interrogé il y a pas très longtemps sur le jeu d'influence, justement, il me disait qu'il les poussait à bout, qu'il les sortait de leur zone de confort et qu'il les lâchait pas, ces comédiens, pour avoir quelque chose de différent. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça, du coup, avec tout ce qu'on vient de se dire?
Oui, d'autant comme j'étais sur le tournage de Manon 20 ans, j'ai un peu vu ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il, je pense,
il maltraite ses acteurs.
Oui, bah bien sûr, il avait un fouet.
N'allons pas jusque-là.
Enfin, c'était un cric de voiture.
En tout cas, il les pousse. C'est ça qui est intéressant. Il après s'être effacé pendant des années.
Il les pousse pas en leur braillant dessus. Il les pousse il y a un équilibre qui est très intéressant. Tu disais sur les dialogues, etc. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces réalisateurs qui essayent, sans pervertir les dialogues, de dégager une énergie. C'est-à-dire que moi, sur le tournage, j'avais cette impression qu'ils ont refait plusieurs fois la scène, etc. Qu'il y a une grosse recherche sur la façon dont on va placer la voix et la façon dont on va dire le dialogue. Et c'est ça qui est très fort chez Alba Gaya Belugi, c'est qu'il y a une très forte impression d'improvisation. Et ça se retrouve aussi chez Poisson, qui a cette capacité de dire son dialogue en donnant l'impression de pas être concentré sur son dialogue, mais sur autre chose. Et ça, c'est un des gros défauts des comédiens français. Sans doute que les dialogues, ils sont pour quelque chose, mais comparé aux Américains, les Américains sont capables d'agir en même temps qu'ils disent leur dialogue. Et je crois qu'il a compris ça de l'estrade, c'est-à-dire que ces comédiens agissent. Ils sont pas bras ballants en train de se regarder comme ça. Ils sont dans une émotion au-delà des mots et ils sont dans le corps. Et ça, c'est vachement important.
Bah, tu sens Alex Poisson qui est sous l'emprise d'une tension mais permanente. Tu te dis, mais va voir un médecin parce que ça va claquer un moment ou un autre. Elle est là-dessus, elle est formidable. Oui, on imagine que la direction d'acteur là-dessus est assez impressionnante.
Oui, moi juste, ça ne me gêne pas. Je pense, enfin, j'y crois complètement au fait qu'il soit dur. Parce que souvent, la frustration du documentaire, c'est justement, à un moment donné, se retrouver face à des gens qu'on aimerait voir différemment, dont on sait l'histoire. On se dit, mais ils vont pas accrocher à l'écran, le spectateur en face, il va pas s'intéresser à eux. Alors qu'ils ont une histoire, et là, au moins, il peut y aller vraiment. Donc ça m'étonne pas, en fait.
I can vividly remember finding Kathleen.
911, where's your emergency?
My wife had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
Still downstairs.
Kathleen Peterson was found dead at the bottom of the couple's staircase.
Peterson's husband is novelist Michael Peterson.
The cop was on me instantly.
There was sufficient evidence to warrant a trial.
The injuries are not consistent with a fall down the stairs.
The charge, first-degree murder.
Alors, je reviens sur The Staircase, cette série documentaire qui a suivi le procès de Michael Peterson, un auteur américain plutôt aisé, accusé du meurtre de sa femme en 2003. À l'époque, c'était très novateur de raconter ces histoires sur plusieurs épisodes. D'ailleurs, ça devait être un documentaire unitaire à la base. De Lestrade aurait-il ouvert la voie au true crime moderne, à Making a Murderer, mais même à la fiction comme The Night Of, comme Broadchurch d'après vous?
Oui, bah oui, clairement, je pense que The Staircase est l'élément fondateur pour ce type de récit, parce qu'il a trouvé avec la personne de Michael Peterson un personnage, mais bigger than life, plus vrai que nature, plus gros qu'un personnage de fiction, plus improbable. Dès le début de la série, dans le premier épisode, on le découvre, on a l'impression d'être dans Striptease.
C'est tellement, sûr, ouais,
tellement on se dit, mais c'est pas possible, c'est écrit, enfin, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de voir un type qui soit aussi peu crédible dans sa manière de tout exprimer, de tout dire. On a l'impression que tout est fabriqué et en même temps, il y a un naturalisme. C'est le contraste entre les deux qui tranche. Et oui, je pense qu'il a réussi à choper ça, à choper ce ton, et en même temps à créer l'addiction tout court autour de voilà, le storytelling du fait divers et qu'est-ce qui se passe dans l'épisode d'après. Oui, ça, il l'a fait magistralement à une époque où c'était le procédural qui était le genre roi encore, où on faisait une intrigue
enquête,
bouclée par épisode, alors que bon, ça n'a que très peu d'intérêt.
Alors, ma connaissance de l'histoire du documentaire ne me permet pas de dire qu'il a créé ce mouvement-là. Je pense que des séries documentaires américaines qui suivaient des histoires criminelles, il y en a sans doute eu avant.
Ceci étant dit, phénoménal à ce point-là.
Oui, qui a eu un écho comme ça, en tout cas pas chez nous. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont elle a évolué. C'est-à-dire que c'est plus proche, c'est du journalisme, au sens où l'actualité de ce type-là a évolué, son procès a été relancé, etc. Et il l'a suivi. Et c'est là que Making a Murderer est vraiment dans cette tranche-là. C'est qu'effectivement, aussi, l'actualité était toujours là. Et que le documentaire, et c'est ça qui est fascinant, mais alors là, c'est une autre épaisseur encore à analyser, c'est que son documentaire a fini par jouer un rôle. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé lui-même partie de sa propre histoire. Ce qui est complètement fascinant. Voilà, donc il a sans doute à ce moment-là eu un impact clé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aux États-Unis, peut-être en France aussi, mais moi j'ai souvenir d'avoir fait une interview du créateur de The Night Of, la série d'HBO, et le gars m'a dit, je lui ai dit quels sont vos modèles, et il m'a sorti The Staircase, qui est pourtant une fiction. The Night Of, c'est une fiction. Et donc évidemment, je pense que ça a eu un impact, et qu'aujourd'hui, c'est dans les 2-3 documentaires type true crime, comme on appelle aujourd'hui, forcément une des références, quoi.
Mais les créateurs de Broadchurch aussi avaient dit que c'était une de leurs influences principales. Mais vous pensez que sur la fiction, en tout cas sur la série policière, on va utiliser le terme générique, ça a changé quoi concrètement sur la façon dont on l'écrit, sur la façon dont on la filme?
Moi, je suis pas certain qu'il y ait que ça qui est joué, parce que notamment si on regarde aux États-Unis, des émissions entre guillemets pseudo-documentaires de cop show ou de
bad boy non
ou de
cops.
Et puis les séries pseudo-documentaire aussi sur des affaires juridiques. Enfin, bon, il en existe et il en existait, mais c'était toujours dans des formats un petit peu pourris. Et voilà. Et que donc, il y a des choses qui ont bouleversé. Et moi, je pense que c'est autant l'arrivée de ce genre de séries documentaires que des affaires comme O.J. Simpson, que des séries policières et juridiques qui s'intéressent autrement et je pense par exemple au travail qu'a pu faire David E. Kelley à un moment donné, que c'est tout ça en fait qui entraîne l'arrivée de séries dont Broadchurch. Bien évidemment, après, chaque créateur a une référence particulière, mais moi je pense que c'est une parmi tant d'autres.
Et pour The Night Of, là j'ai une question bonus qui vient de m'arriver pendant que je vous écoutais, mais est-ce que vous pensez que des séries comme Making a Murderer ou comme The Staircase qui ne sont pas élucidées, finalement on ne sait pas qui est coupable ou qui ne l'est pas, ça autorise The Night Of à pas aller justement jusqu'à élucider son mystère? Est-ce que ça nous a aidé, formé à accepter que des fois il n'y a pas de réponse, quoi, on ne l'aura pas?
Oui, alors ceci étant dit, je suis désolé, hein, je vais dans le sens inverse, mais comme Benoît rappelait qu'il y a eu une histoire avant, des séries dès les années 80 de Hill Street Blues et ensuite NYPD Blue, Homicide et tout, se permettaient aussi des épisodes où on savait pas qui était le tueur.
Oui, mais c'était à la fin de l'épisode, c'était pas à la fin du 8 heures.
Oui, certes.
Ça change tout. L'implication du spectateur, c'est pas du tout la même.
Oui, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, évidemment, c'est presque par fatalité que de Lestrade, il a pas de coupable à la fin désigné. Parce que le procès n'a pas... Parce que c'est ça, la réalité de la justice. Mais c'est, ça s'inscrit sans doute dans un même mouvement de recherche d'une forme de vérité, d'une, voilà, que, qui est celui de David Simon aussi. The Wire est passé par là aussi. Donc je pense que de Lestrade, si on lui demande... Il vous répondra l'inverse, c'est-à-dire il dira ah non non mais moi je me suis inspiré malgré moi peut-être de The Wire et d'autres choses qui ont été faites avant.
Et dans et par rapport à ta question qui est très intéressante.
Oh c'est gentil.
Voilà. Non mais c'est vrai parce qu'on pourrait on pourrait se dire ça, mais de notre côté quand on regarde The Practice avec de David E. Kelley, à un moment donné il nous met une fin possible. Et puis la saison d'après reprend et en fait on découvre que cette fin qui a rangé finalement tout le monde, c'est pas la vraie fin. Et donc la vraie fin, elle reste en suspens. Donc il remettait en question souvent aussi ce qui était acté. Donc dans et dans des grandes séries judiciaires de l'histoire de la télévision américaine, les grandes, les plus grandes, et The Practice est pour moi une de ces séries-là, c'était des séries qui nous montraient que même quand il y avait une fin possible, elle n'était pas vraiment une fin, qui restait toujours du doute. C'est ça les grandes séries. Et donc là, effectivement, là, cette mécanique-là a peut-être inspiré des créateurs de fiction pour se dire, ben, on va jusqu'à ce bout-là, bien évidemment. Mais je pense que c'est finalement le fait même de ce qu'est la justice qui entraîne
décortiquer tout le système judiciaire avec tous ces dysfonctionnements, avec toutes ces défaillances, et justement de l'injustice de la justice qui arrive à une conclusion qui n'est jamais satisfaisante.
Ainsi s'achève l'épisode 101 de Un épisode et j'arrête. Merci à Émilie Sémiramode de Glamour, à Pierre Langlais de Télérama et à Benoît Lagane de France Inter et Télématin, ainsi qu'à Sébastien Salis qui a assuré la technique. La semaine prochaine, on vous dit quoi regarder cet été et en attendant, on vous attend sur les réseaux sociaux. Bye.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.
What?
That's the last one.